d'emploi. Mode d'emploi.
Bonsoir à tous et à toutes, vous êtes bien sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM dans l'émission Mode d'emploi, l'émission des chômeurs et précaires. Je suis avec Ludo, bonjour Ludo.
Bonsoir.
Claude à la technique et Gilles au micro avec vous pour ce soir. Nous allons parler principalement donc des intermittents du spectacle et de la convention inédite liée, à la liée aux intermittents du spectacle bien sûr. Également des nuits debout avec la répression policière. Et en toute première partie, nous allons parler de la disparition d'une camarade de AC et de bien d'autres collectifs. C'est Lara Winter qui vient donc de disparaître mercredi dernier, qui a été au Père Lachaise, donc c'est au Père Lachaise qu'elle était, voilà. Et nous allons faire un petit peu un témoignage, raconter un peu sa vie en quelques phrases. Et si vous voulez intervenir au micro pour raconter un peu ce qu'elle était pour vous, chers camarades, n'hésitez pas à nous appeler au 01 40 05 06 10. 01 40 05 06 10, merci. Rebonsoir à tous, et toujours sur Mode d'emploi, l'émission de chômeurs et précaires. Ce soir, nous allons rendre un petit hommage à une camarade qui est partie, donc mercredi dernier. Elle est morte d'un cancer. Nous allons rappeler un petit peu sa vie. Il faut savoir que Lara Winter est née en 1930 en Allemagne, dans une région près de la Pologne. Sa mère, juive polonaise, était partie en Union soviétique en 1920. Elle représentait sa mère, donc les jeunesses communistes de la Pologne, auprès de la Troisième Internationale. Elle a dû fuir l'URSS en 1924 après la mort de Lénine. Elle vivait dans la clandestinité avec des faux papiers avec sa fille, donc Lara, évidemment. Lara et sa mère ont dû quitter l'Allemagne en 1936 et se sont réfugiées à Prague. Puis elles ont quitté Prague et sont parties en Hongrie, puis en Roumanie, en Slovénie, en Italie et en Suisse. Ce qui veut dire que Lara a vécu une enfance et une adolescence de déplacements, de voyages, etc. Ce qui l'a quand même un petit peu formée pour la suite. Vous voyez pourquoi par la suite. Voilà. Lara donc arrive en France à 8 ans. En France, ses premières années ont été très difficiles pour elle. Elle a connu donc la faim et la pauvreté. Mais elles ont su s'en sortir grâce à des réseaux de solidarité mis en place par des amis de la gauche française. Quand je dis la gauche française, c'est pas à l'époque, c'était le PS, a priori, puisque on verra par la suite, elle a appartenu au PSU.
La SFIO. Donc,
la SFIO, c'est ça, à l'époque, c'était la SFIO. Très juste. Dans les premières années, en 1940, pour fuir le camp nazi, Lara a dû être hébergée dans plusieurs pensionnats. Lara n'a jamais pu connaître son père, donc elle a cherché elle l'a cherché en 1945, hein, sans le trouver. Sans aucun document d'état civil, elle a pu obtenir la nationalité française en 1960 après 10 ans de démarches. 10 ans de démarches, c'est pas mal quand même, hein. Elle a vécu avec sa mère jusqu'au décès de celle-ci en 1978. Pendant ses études, elle a été élue comme secrétaire des étudiantes socialistes. Elle travaillait dans les premières années au noir, dans les bureaux de la CFIO. Ludo vient d'en parler. Parlant couramment plusieurs langues, elle a énormément voyagé pendant toute sa vie, accompagnant des groupes et préparant des voyages à l'étranger, parce qu'elle parlait également beaucoup de langues couramment. Donc c'est ça qui l'a en fait la formée au tourisme, hein. Comme elle a beaucoup été déplacée dans sa jeunesse, toute sa vie ensuite elle a continué à voyager dans tous les pays du monde avec, en préparant des voyages, etc. Elle a été au PSA puis au PSU. Elle a milité à Paris dans le 20e avec Guy Philippon. Elle a rencontré Monique et Claude Dubois. Claude Dubois, que vous connaissez très bien, puisqu'il était un des fondateurs avec, évidemment, Lara d'AC, donc AC1920. Donc, c'était l'Agence en contre chômage.
Du collectif
AC1920. Hein,
dans le 20e.
Ils ont créé à plusieurs ce collectif. Elle rentre donc au PSU en 60 et est restée jusqu'en 1989. Elle est ensuite à ERF, donc c'est les alternatives rouge et vert, du 93. Elle était encore active au collectif d'AC 1920 il y a quelques années. Voilà. Donc ça, c'est pour vous présenter un petit peu son parcours en quelques mots. C'est-à-dire qu'elle a quand même eu une vie très trépidante, en fait, puisqu'elle a beaucoup voyagé, dans son métier parce qu'elle était dans le tourisme, dans son enfance et son adolescence parce qu'effectivement elle était pourchassée, elle n'avait pas de papier, etc. Et elle a été donc, c'est une militante de premier rang parce qu'elle a connu une personne assez intéressante qui s'appelle Maya Surdut. Oui, Surdut, voilà. Une des plus grandes féministes hein, de notre époque, qui est morte 24 heures avant Lara et qui fut enterrée au même endroit et le même jour, donc au Père-Lachaise. Il faut savoir que cette dame était donc une féministe hein, qui a appartenu au groupe Révolution, donc c'est un peu l'extrême gauche française radicale, hein, la gauche radicale. Et également, elle était également inscrite à la LCR. Voilà. Et puis elle a participé à plein de marches pour l'égalité des droits aux États-Unis, en France, etc. Je parle évidemment de Maya Surdut, qui était une amie de Lara Winter. Voilà. Donc je vous propose d'écouter dans un premier temps un extrait de l'émission numéro 283 du 17 novembre 2000 sur les accords de Nice.
Nous sommes dans l'émission Mode d'emploi ce soir à l'occasion du sommet européen de Nice qui se déroulera le 7 et 8 décembre de cette année. Nous parlons de l'Europe et de la Charte européenne des droits fondamentaux qui seront discutés à cette occasion.
Et depuis le 1er juillet, c'est la France qui a la direction de l'Europe, ce qui fait qu'au sommet de Nice, il y a plusieurs sujets importants qui sont à l'ordre du jour. Il y en a un qui est la Charte des droits fondamentaux, qui est en discussion depuis début 99, donc Cologne, puis ensuite Helsinki, puis Porto, Biarritz et en principe définitivement à Nice, qui devrait devenir le préambule à la Constitution européenne. C'est le point le plus important, on le verra tout à l'heure. Il y a la révision du traité d'Amsterdam en ce qui concerne l'emploi et les conditions d'allocation de chômage. Il y a une directive européenne, mais qui laisse à chaque pays la possibilité d'agir comme il l'entend sur ce sujet, avec cependant des recommandations. Et si on prend les recommandations données par la Commission européenne, elles ressemblent étrangement à ce que le MEDEF et la CFDT nous proposent dans le PAR, et qui par beaucoup d'aspects est déjà pratiqué en Grande-Bretagne et d'autres pays européens. Blair n'est pas le dernier à aller dans ce sens. Et il y a également les projets allemands en ce qui concerne les contrats de 5 ans pour les techniciens de haut niveau étrangers. Ensuite, un point important aussi de ce sommet, c'est l'élargissement à l'Europe centrale, qui malheureusement, ce n'est pas pour amener ces pays au niveau de l'Europe occidentale, mais plutôt pour permettre de casser les conditions sociales acquises en Europe occidentale, et faire en sorte que l'ajustement structurel qui accompagne les investissements des multinationales dans ces États qui vont être rattachés à l'Europe et l'élargissement de l'OTAN va permettre de faire passer le minimum de droits sociaux, comme on le verra tout à l'heure dans la Charte des droits fondamentaux. Il y a ensuite un point sur la coopération renforcée dans le domaine militaire et les règles de fonctionnement du Parlement, en particulier le problème de la majorité qualifiée ou l'unanimité. Mais je ne sais pas si tous ces sujets seront traités jusqu'au bout au sommet de Nice. Ce qui est certain, c'est que le point le plus important, du moins pour ce qui nous concerne, c'est la Charte des droits fondamentaux.
Oui, alors cette charte, elle est présentée comme une grande avancée sociale en Europe. D'ailleurs, depuis Amsterdam, etc., on nous parle du social dans l'Europe, le volet social, hein, on dit ça comme ça, qui est inclus dans les traités. Bon, à chaque fois qu'on lit dans les traités le volet social, c'est se réduit à une peau de chagrin, c'est-à-dire c'est des souhaits, en général, hein.
Oui, c'est plutôt une charte des droits au rabais, hein, sans caractère contraignant, même si elle devient un jour le préambule à la Constitution européenne. On aurait pu effectivement espérer qu'une telle charte prenne en considération les droits les plus évolués acquis par les luttes en Europe, et non de s'aligner dans presque tous les domaines sur les dispositions de l'État le plus retardataire. Il est vrai que dans l'ensemble de l'Europe, les droits sociaux ne sont pas au même niveau, mais je crois qu'il aurait mieux valu, ne serait-ce que pour les travailleurs d'Europe, qu'on s'aligne sur les droits acquis par des longues luttes de la classe ouvrière, plutôt que par les desiderata des patrons européens, tels le MEDEF, mais il n'est pas le seul, les les patrons européens sont organisés sur le plan européen depuis fort longtemps. Et ils font tout pour qu'on applique la politique libérale telle que c'est souhaité dans la politique de mondialisation mise en place dans l'ensemble du monde. Elle est loin de la Déclaration universelle des droits de l'homme et de la Convention européenne des droits de l'homme. Si elle prenait force de loi, ce que veulent, semble-t-il, les dirigeants de l'Union européenne, au moins les Allemands, cette charte pourrait être utilisée pour faire reculer les droits chèrement acquis par les luttes ouvrières passées.
Voilà, si personne n'a quelque chose à ajouter.
Il faudrait quand même. Moi, j'ai quelque chose à ajouter qui est une préparation de Nice, parce que entre le 2 et le 4 décembre, il y a l'Assemblée européenne des chômeurs et précaires qui se tiendra le 2 décembre dans l'après-midi à la Bourse du Travail rue du Château d'Eau. À Paris, et le 3 et le 4 à la Maison des syndicats à Créteil. Elle aura pour objectif d'étudier la situation des chômeurs et précaires en Europe, de voir quelles luttes nous pouvons mener ensemble contre cette situation, d'étudier l'application des directives européennes en matière d'emploi et de précarité dans l'ensemble des pays européens, et de regarder ensemble la charte, et voir ensuite comment nous fonctionnerons en Assemblée européenne des chômeurs pour les mois et les années à suivre. Et avant, du 27 novembre au 2 décembre, à la Bourse du Travail toujours, il y a une exposition sur les marches qui ont eu lieu en Europe et les luttes en Europe, et qui s'appelle « Les raisins de la colère » par Canal Marche.
Très bien.
Voilà.
Oui, vous êtes toujours sur Fréquence Paris Pluriel, 106.3 FM dans l'émission Mode d'emploi, émission des chômeurs et précaires. Donc nous parlions de Lara Winter, qui était une grande militante qui appartenait donc à AC, Agir Ensemble Contre le Chômage, qui a fondé AC, voilà. Il faut savoir que Lara a travaillé comme secrétaire de Michel Rocard et que celui-ci a envoyé un mail à un de nos camarades à nous pour dire tout le bien qu'il pensait de cette grande militante et qu'il se souvenait très bien de Lara. Voilà, donc c'était une façon à lui de faire ses condoléances. Donc c'est touchant quelque part. Moi, j'ai croisé Lara à plusieurs reprises, par hasard, dans les manifestations et les réunions de notre collectif Agir Ensemble Contre le Chômage, pour partager un verre ou pour discuter politique, évidemment. C'était une femme qui... Enfin, voilà, je vais raconter un petit peu mon émotion aussi, parce que je suis un petit peu ému par cette disparition. C'était une femme qui était assez discrète, qui riait peu, j'ai très peu vu rire, en tout cas moi, en ce qui me concerne. Elle souriait aussi assez rarement, parce qu'elle était tellement impliquée dans ce qu'elle faisait, dans ce combat contre les injustices, qu'elle ne se permettait pas de plaisanter, de pas trop, en tout cas. Peut-être que d'autres l'ont connue plus gaie, hein, certes. Moi, quelque chose, je voulais quand même vous expliquer quelque chose qui m'avait extrêmement touché. C'était il y a 10 ans, à la naissance de ma fille. Lara, à son initiative, a demandé au collectif, aux membres du collectif d'AC à l'époque, quelques sous pour acheter donc un pantalon et une petite chemise de bébé et me l'offrir au moment où j'arrivais dans le local. Et extrêmement surpris, j'ai bafouillé un remerciement incompréhensible certainement que j'ai réitéré plus clairement après. Et j'étais très confus, je ne sais pas comment réagir, parce que c'est tellement rare dans les partis politiques, ou les mouvements, les groupes de combat, etc. On est tellement pris par l'idéologie, par la stratégie, par la dialectique.
C'est pas très personnel, quoi.
On n'est pas tellement dans le personnel, dans l'intime, dans le remerciement, dans le cadeau, quoi.
Mais notre collectif était à taille humaine, hein. Il
faut. Et notre collectif était à taille, ouais, tout à fait.
C'était l'idée des collectifs d'AC, qui
absolument.
Était hyper localisé, hein, ouais. Par secteur, et ouais. Donc ça donnait quelque chose de très humain, quoi, une réunion.
Ce qui était très marrant dans cette histoire où elle m'avait offert des habits de bébé pour ma fille, c'est qu'elle avait choisi des couleurs. Ça va vous faire marrer, mais elle avait choisi rouge et vert. Voilà, donc c'est un
elle
peu la
était
couleur.
Déjà au parti de gauche alors.
Oui, ouais. C'est un peu la couleur de mon drapeau. Alors il manque un peu le noir, parce qu'avec le noir on repeint le drapeau français pour le coup, hein, noir, rouge et vert, voilà. Et moi j'ai trouvé que cette femme était quand même quelqu'un de très très sérieuse, très compétente dans ce qu'elle faisait. Elle faisait jamais les choses au hasard. Elle avait la. Alors des fois, ça m'énervait un petit peu, mais je disais rien, évidemment. Elle avait de temps en temps la dent dure parfois contre moi, parce que elle me faisait toujours des fois des réflexions sur l'émission de radio qu'elle avait écoutée
la veille
précédemment ou la veille, pour me dire oh t'aurais dû dire ça, là t'as bafouillé, etc.
Oui, t'es un peu nul, quoi.
Voilà, t'es un peu nul. Mais ses conseils étaient toujours extrêmement avisés. Et voilà, donc moi, je bafouille toujours à ce micro et elle est partie. Voilà, donc je tenais à exprimer ma grande tendresse pour elle, en fait.
Ouais. Donc elle était plus ou moins bilingue, en fait. Hein.
Elle était non, elle parlait plusieurs langues.
Elle parlait allemand et c'est par elle qu'on avait des retours des camarades allemands et
tout à fait
des réformes Arts 4, enfin de ce qui se passait qu'on savait. Disons que le modèle allemand n'était pas, en tout cas pour les chômeurs, c'était pas ce qui était prétendu, quoi qu'on en dise aujourd'hui.
Alors je tenais quand même, je sais qu'on ne s'excuse pas au micro, mais je tenais quand même à m'excuser auprès des auditeurs, parce que je suis parti à fond latin, je suis parti très très vite sur le début, donc j'ai raconté trop rapidement son histoire, mais ça vaut quand même le tour. Donc vous avez la possibilité, évidemment, sur le site de Mode d'emploi, éventuellement de récupérer des informations, je vous le concède. Donc je tenais à vous faire, donc je vous propose d'écouter la deuxième partie des sons, que je vais retrouver tout de suite. C'est l'émission numéro 556 du 19 mai 2006. C'est sur le forum social de Vienne. Nous avons l'oncle Sigil au micro. Nous avons Lara au téléphone. Bonjour Lara.
Oui, bonsoir.
Bonsoir Lara.
Alors, il y a eu un sommet alternatif Amérique latine, Caraïbes et Europe qui s'est tenu à Vienne du 10 au 13 mai, c'est-à-dire juste après le FSE de Athènes, puisque un certain nombre de copains, non seulement français, mais aussi latino ou Europe centrale, se sont déplacés d'Athènes jusqu'à Vienne.
Oui.
Ce sommet, il a eu lieu parce que les 11 et 12 mai devaient se réunir les chefs d'État de 60 pays de l'Union européenne et de l'Amérique latine à Vienne. Un grand sommet. Donc on a fait un sommet alternatif.
D'accord.
Une rencontre bicontinentale de mouvements sociaux et d'ONG d'Amérique latine et d'Europe.
Dans ce sommet, il y avait également, j'imagine, des conférences, un certain nombre de choses qui ont été des manifs, un certain nombre d'actions.
On ne peut pas parler de manifs, parce qu'il y en a eu une petite le samedi, mais il n'y a pas eu beaucoup de monde. Mais il y a eu un travail fort intéressant dans trois directions.
Oui.
Une critique économique, qui ça a été la partie la plus importante de ce sommet, ce qui est normal. Elle a tenu pendant deux jours un espèce de tribunal des peuples,
oui,
pour analyser et démontrer le rôle néfaste et dévastateur pour les peuples du continent sud-américain des multinationales européennes. Parce qu'il faut savoir que dans le cône sud, les entreprises européennes occupent une place plus importante que les compagnies nord-américaines dans les domaines de l'énergie, je parle du pétrole, que ce soit au Venezuela ou en Bolivie, la British Petroleum, Repsol, Total, la privatisation de l'eau avec Suez France, des multinationales autrichiennes, norvégiennes et d'autres encore, qui sont des spécialistes de la déforestation pour le papier, et en particulier les banques espagnoles, qui sont très néfastes dans les zones rurales.
D'accord. Alors, il paraît qu'il y avait 58 pays représentés dans ce sommet.
Oh, je n'ai pas fait le compte, mais il y avait un sacré paquet, oui.
D'accord, oui. Il y avait beaucoup de monde, apparemment, mais est-ce qu'il y a eu quand même, dans le cadre des discussions, quelque chose qui a été signé, un texte qui a été écrit en commun pour lutter contre...
Oui, il y a un texte final, mais je suis partie avant et je ne l'ai pas encore vu passer, le texte final.
Hein. Très bien.
Mais ça a été fait en particulier avec la grande séance du samedi après-midi, où il y avait Hugo Chavez et Evo Morales présents.
D'accord.
Dans le sommet alternatif. Hugo Chavez ayant même préféré la veille au soir venir à une soirée culturelle faite par les jeunes du sommet, plutôt que d'aller au grand dîner de fin de sommet des chefs d'État au château de Schönbrunn à Vienne. Hein.
Bon. D'accord.
Ça, c'est quand même, ça marque, et ça a beaucoup marqué la presse autrichienne en plus. Ce qui était important, et c'est un petit lien avec Athènes aussi, c'est que, en particulier les gens d'Amérique latine, se sont vivement félicités de l'échec du traité de constitution européenne grâce à la France et à la Hollande, oui. Et aussi des luttes contre le CPE et les grandes manifestations françaises. Ça, tout le monde en a parlé également à Vienne, y compris les gens qui venaient de l'autre bout du monde. Hein.
Très bien. Donc on était un peu l'exemple à suivre éventuellement dans le cadre du CPE et puis du non à la Constitution, alors, si je comprends bien.
Exactement.
Très
oui.
bien, bah, c'est une bonne chose.
C'était le deuxième sommet alternatif d'Amérique latine Europe. C'est le premier que nous suivions parce oui. qu'il était à Vienne. Et que, comme le premier FSE devait avoir lieu en avril, on avait projeté de faire une marche de Athènes jusqu'à Vienne pour le sommet. Comme le FSE a été déplacé au mois de mai à cause des élections italiennes, ça a juste permis à un petit groupe de copains d'Athènes de remonter sur Vienne.
Donc c'était positif alors, quand même.
Non, il était très positif, très intéressant. Bien. Un peu difficile à suivre parce qu'il ouais. y avait que de la traduction en allemand, en anglais et en espagnol.
Bien sûr. Très bien.
Il y avait un nombre incalculable de séminaires, donc on avait des choix difficiles à faire.
Parfait. Écoute, Lara, je te remercie de ton appel.
Voilà.
Je te dis à bientôt et puis reste à l'écoute de cette émission. Hein,
mais je reste à l'écoute.
Que tu as cofondé également avec nous tous.
Excuse-moi.
Très bien.
Bon, allez, bonne suite. Salut.
Merci, au revoir.
Bien sûr, ce n'est pas la Seine, ce n'est pas le bois de Vincennes, mais c'est bien joli tout de même, à Göttingen, à Göttingen. Pas de quai, pas de rengaine, allez reprendre les armes, mon cœur verserait une larme pour Göttingen, pour Göttingen.
Et oui, c'était Barbara Göttingen, c'était en l'honneur de Lara qui est partie. Voilà, parce qu'elle aimait Barbara, elle aimait également Brassens, donc elle aimait les chanteurs à texte. Voilà. On va reparler un petit peu de Lara. Ludo, tu l'as connue un tout petit peu, je crois.
Oui, alors moi je l'ai connue peut-être en 97, oui. 98. Donc c'était 4 ou 5 ans après la création d'AC, donc c'était effectivement un collectif AC 1920. Oui. Et je me souviens très bien d'une discussion qu'on avait eue à l'époque où c'était une période, si vous voulez, où il faut se rappeler qu'AC, c'était une espèce de rencontre entre différents syndicalistes et des chômeurs, c'était ça le principe. Et dans le contexte des années 90, où on parlait plus de lutte de classe, on parlait plus de ce genre de choses. Et donc, Claude Dubois et Lara, qui étaient des vieux militants et qui connaissaient un peu
le système,
qui avaient un peu de recul, tout ça, ouais. Disaient, mais finalement, vous savez, peut-être que dans 5, 6 ans, c'est des thèmes qui seront plus d'actualité que jamais. Et donc, effectivement, on en parle moins assez pour le moment, mais c'est des choses qui ont de grandes chances de revenir. Et c'est vrai qu'on pense à eux parce qu'aujourd'hui, finalement, c'est une autre génération qui, on les voit avec les jeunes Place de la République, mais qui prend le relais et effectivement, qui est complètement sur ces thématiques. Alors peut-être pas de lutte des classes, mais de lutte contre l'oligarchie, de lutte contre les 1%.
Contre le libéralisme.
Contre le libéralisme. Ouais, mais, donc voilà. Et donc ces gens-là, c'était un peu des passeurs d'une époque à une autre.
Témoins,
c'est-à-dire
quoi,
ouais. Des gens qui ont transmis ce qu'ils savaient d'une génération à une
ils
autre.
Ils étaient assez visionnaires finalement, puisqu'ils avaient...
Ils avaient beaucoup d'expérience en
oui,
fait.
C'est
hein. C'était aussi ça, c'est qu'ils savaient un peu comment ça fonctionnait, comment l'État fonctionnait, comment... Bon, ils avaient vécu les années Giscard, les années Mitterrand, donc il n'y avait pas forcément de quoi être optimiste en fait. Hein. Donc voilà, et donc c'est effectivement un souvenir. Et je voulais ajouter que Lara Winter, du fait de son histoire, était particulièrement européiste.
Absolument.
Il
n'y
a pas de doute. Mais qu'elle était sans illusion sur la construction européenne, comme on l'a vu dans le premier, comme on l'a entendu dans le premier reportage, notamment sur le traité de Nice et sur l'Europe libérale qui avait été construite. Et donc c'était quelqu'un qui était très actif effectivement dans les mouvements internationaux, dans les marches européennes, et qui pensait effectivement que c'est la construction d'un mouvement social européen aurait une chance peut-être de peser de peser sur l'Europe. Alors c'est pas tout à fait le cas.
Elle voulait une Europe sociale en fait.
Tout à fait, oui, elle voulait bien entendu une Europe sociale.
Bien sûr,
et elle reprochait évidemment à la construction européenne de on l'a entendu dans le reportage, une charte des droits fondamentaux mais qui n'est pas contraignante. Bon, voilà, on avait bien compris que c'était pas forcément une Europe sociale qui était en train de se faire, quoi.
Enfin, juste rappeler que c'était quand même une femme de caractère qui avait politiquement, qui était trempée politiquement parlant, hein, bien à gauche. Hein. Voilà, donc on la salue ici dans cette émission. On espère que tous les copains qui nous écoutent, qui l'ont connue, la saluent avec moi et avec nous. Voilà, on va passer donc maintenant ensuite à la deuxième partie de cette émission.
Il est où Pierre Gattaz
au RSA? Et Pierre Gattaz au RSA? Et Pierre Gattaz? Et Pierre Gattaz? Et Pierre Gattaz au RSA? François Hollande au Pôle emploi? François Hollande au Pôle emploi? François Hollande? François Hollande? François Hollande au Pôle emploi? Guillaume Pépi au RMI? Guillaume Pépi au RMI? Guillaume Pépi, Guillaume Pépi, Guillaume Pépi au RMI. Et Pierre Gattaz au RSA, et Pierre Gattaz au RSA, et Pierre Gattaz, et Pierre Gattaz, et Pierre Gattaz au RSA. À ceux qui veulent casser le code du travail, les cheminots répondent.
Merci à Claude pour ce son ramené de la manif et ce montage. Nous reprenons cette émission. Nous sommes toujours sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM dans l'émission Mode d'emploi. L'émission Mode d'emploi est bien sûr l'émission des chômeurs et précaires. Là c'est pour l'émission de AC19, AC tout simplement, Agence contre le chômage, l'équipe. Donc Ludo, ça va être à ton tour de t'y mettre.
Oui, puisque comme il ne vous a pas échappé que les interviews du spectacle était de nouveau dans la rue. Alors c'est vrai qu'ils sont, c'est pas marginal parce que, mais disons que ça vient percuter la manif, enfin la nuit debout. Mais la négociation, c'est vrai, hein, c'est la négociation sur l'assurance chômage a lieu en même temps que le projet de loi El Khomri. Alors c'est bien, le gouvernement il est sur deux fronts à la fois. Bon, voilà.
Et
ouais. Tout à fait. Et ils ont du boulot. Et ils ont d'autant plus de boulot qu'en fait, c'est la énième réforme du régime des intermittents du spectacle. Alors, autant vous dire que de notre point de vue, c'est un marronnier. Du point de vue des gens qui sont concernés, c'est jamais drôle. Parce que plus que les chômeurs habituels, les intermittents du spectacle sont concernés par les successives réformes, contre-réformes, du régime, donc de l'annexe 8 et 10, hein, enfin, qui régit l'indemnisation des intermittents. Et donc, effectivement, il y avait de quoi avoir
des surfroides, ouais.
Puisqu'il faut se rappeler que le régime avait été donc réformé en 2014. Et puis alors on avait demandé quand même des économies substantielles et importantes aux intermittents. Et il y avait 2-3 mesures dont on pouvait discuter, qui étaient effectivement le plafonnement, le limite du cumul des salaires et des indemnités, c'est-à-dire du salaire des intermittents du spectacle avec les indemnités des intermittents du spectacle, ce qui dans certains cas fait un cumul plus que généreux, on va dire. Hein. Bon, pas pour la majorité des intermittents, bien entendu. Mais c'était un effort qui était important. Et à la suite de ça, l'État avait pris en charge une partie de l'indemnisation. Alors, c'est du différé d'indemnisation. C'est-à-dire que, comme les chômeurs classiques, le MEDEF avait voulu un différé entre les fins de contrat
des intermittents
et puis leur début de l'indemnisation. Sauf que quand vous êtes intermittent, vous avez des bouts de contrat, parfois un jour dans le mois. Et du coup, ça avait fait un peu hurler, un peu sauter au plafond la profession, et l'État avait, encore une fois, on va dire, l'État pompier avait aligné 80 milliards. Ouais. Après la manif, hein, après le blocage des festivals, donc c'est pas une somme anodine, et on a envie de dire, hein, qu'une fois de plus, l'UNEDIC, enfin le patronat, en fait, se défausse sur l'État lorsqu'il s'agit d'indemniser les chômeurs qui sont en fin de droit, enfin plus ou moins, en tout cas se substitue au régime d'assurance, hein, du chômage. Et voilà. Et donc, alors, s'en est suivi un embrigolo, c'est-à-dire que Monsieur Valls a voulu sanctuariser le régime des intermittents du spectacle, et donc l'inscrit dans la loi, mais il semblera qu'il ait oublié d'inscrire dans la loi, donc, le montant des économies à réaliser, le montant limite des économies à réaliser sur le dos des intermittents à chaque convention UNEDIC. Donc, pour vous donner une idée, dans le document préparatoire du MEDEF, parce que c'est toujours le MEDEF qui propose, faut savoir, aussi bien pour le régime d'assurance générale que pour le régime des intermittents du spectacle, c'est toujours lui qui propose les économies et qui éventuellement peut tenir compte des contre-propositions des syndicats qui existent, notamment de la CIP. Et eh bien, pour vous donner une idée, à l'horizon de 2020, l'économie serait de, je crois, de 200 à 400 millions. 400 millions, je crois que c'est plutôt le chiffre exact, juste pour le régime des intermittents. Donc c'est énorme.
Oui.
Et on voit aussi la logique qui consiste finalement à réduire tout simplement les droits, réforme après réforme, les droits et le montant des indemnisations des intermittents. Et voilà, donc du coup, on comprend un petit peu que les intermittents soient aient occupé l'Odéon, aient occupé, etc., etc. Voilà, d'autant que c'est le gouvernement Valls a monté une espèce d'usine à gaz qui consiste à laisser donc le MEDEF négocier en face à face avec les syndicats, puis à monter un comité fait de personnalités qui sont pas toutes mal intentionnées, certaines alors voilà, d'experts, un sociologue, donc dont certains sont plutôt favorables aux intermittents, qui sont chargés de vérifier si l'accord est valide, mais dont on se méfie un peu, parce que on a eu l'exemple de la loi travail, si vous voulez, où on confie un rapport à des experts, donc Monsieur Combrexel, Monsieur Badinter, Monsieur Lyon-Camp, et puis à l'arrivée, carrément autre chose. Et donc c'est toujours d'autant plus que finalement on connaît relativement la problématique des intermittents du spectacle, donc on se demande un collège d'experts en plus, pourquoi quoi. Voilà, bon. Et à ce stade, pour le moment, on en est juste à la négociation MEDEF syndicat.
Excuse-moi de t'interrompre, parce que qu'est-ce qui change? Parce que moi, j'ai lu dans un journal populaire de droite, enfin non, je plaisante, Le Parisien, qu'un CGTiste qui était un mec de la CGT qui était interrogé, qui disait quand même que c'était, que ça allait quand même dans le bon sens, parce qu'apparemment, donc faut confirmer, hein, tu vas peut-être le faire à ce micro. Apparemment, les intermittents auraient maintenant la possibilité de faire 507 heures sur 12 mois au lieu de 10.
Alors, ça s'est passé en deux temps. D'abord, c'est pas encore effectif.
D'accord.
Et la deuxième chose, c'est que dans un premier temps, les propositions du MEDEF ont été telles qu'on les attendait, c'est-à-dire qu'ils ont demandé 180 millions d'économies pour les intermittents du spectacle. Donc, pour rappel, le déficit cumulé, c'est-à-dire sur plusieurs années du régime des intermittents du spectacle, d'un milliard. Le déficit cumulé du régime général, lui, est de 30 milliards. Oui. Donc le patronat demande 800 millions d'économies à tout régime confondu, Et il en demande 200 millions, grosso modo 180 millions, comme je l'ai dit.
Aux intermittents,
qui représentent 4%, voilà. Mais qui sont, soi-disant, bien trop indemnisés. Et pour donner une idée, c'est que la CGT avait dit à 200 millions d'euros, c'est la guerre. Le MEDEF a fait une bonne proposition de 180 millions d'euros. Bon, donc ce qui a quand même été la guerre, puisque ça fait quand même un peu beaucoup. D'autant qu'on leur avait déjà demandé la même somme d'économie en 2014,
oui.
Et que l'État avait pris à la poche 80 millions et que le MEDEF avait dit, écoutez, c'est simple, il faut que, une fois de plus, l'État contribue à hauteur de 80 millions pour les économies à faire. Hein. Donc, je ne sais pas si vous voyez, on va faire des économies, on va demander à l'État de mettre
au pot.
Quoi, voilà. Voilà, et donc il y a eu ces différentes occupations qui étaient un peu rudes, mais qui portent, comme d'habitude, ses fruits, puisque les négociations ont repris pour apaiser un peu tout ça, et que les syndicats ont fait des propositions qui vont effectivement dans un sens plus favorable. Donc, comme tu le disais, le retour de 12 mois au lieu de 10. Donc, je rappelle, il faut 12 mois d'indemnisation, pardon, 10 mois de cotisation pour avoir 8 mois d'indemnisation. Alors, il faut exactement, en fait, 507 heures sur 10 mois pour avoir 8 mois d'indemnisation. Avant, il fallait 507 heures sur 12 mois. Il y a aussi.
Donc, en fait, on revient à un truc qui était déjà existant.
Antérieurement. C'est la proposition des syndicats. Il y a aussi une autre proposition qui paraît l'air de rien, mais c'est une date anniversaire. Alors, la date anniversaire, c'est important parce qu'avant, c'était glissant. Et donc, glissant, ça veut dire qu'effectivement, vous pouvez avoir un fort pic d'activité en début d'année. Et puis, rien d'autre. Six mois, 9 mois plus tard. Mais si la date est glissante, c'est-à-dire qu'à un moment, vous n'obtenez pas, au moment du renouvellement, vous n'avez pas vos 10 mois, quoi. Donc, la date anniversaire, et puis c'est dans la tête de celui qui calcule, donc l'intermittent, c'est quand même, c'est plus intéressant. Et autre proposition qui va aussi dans un sens,
favorable.
Favorable, oui, en tout cas, je sais qu'on voulait cumuler, effectivement, les allocations, le salaire et l'indemnisation à 3008, donc ce qui est pas mal, ce qui est quand même assez généreux. Donc oui. Ça, c'était un souci qu'il y avait quand même, on peut être honnête, dans le régime d'intermittent, c'est que le régime était plus que généreux, quoi. Il était quand même pas le plafonnement était assez haut, et c'est d'ailleurs une spécificité de notre régime d'indemnisation du chômage par rapport aux autres pays européens. C'est que les plafonds sont très hauts, voilà. Et donc dans cette profession, comme on l'a dit, hein, il y a aussi une partie des gens qui gagnent très bien leur vie. Donc ça, bon, et ça permet de faire quand même 50 millions d'euros d'économie.
C'est ça, voilà.
Donc, alors ça, c'est une proposition. Il reste, eh ben, 100 millions à trouver, plus, non, excuse-moi, 50 millions à trouver, plus 80 millions éventuels, alors que l'État pourrait mettre, mais c'est pas sûr. Pour dire les choses, c'est un syndicat d'employeurs. Oui, parce qu'il y a aussi un autre aspect, c'est que désormais, c'est les syndicats de la profession qui négocient. Donc c'est plus
sens
interprofessionnel. Ah oui, et donc, par exemple, on peut avoir un syndicat de théâtre, de compagnie de théâtre. Et donc, en fait, ils sont plus proches des préoccupations des intermittents, semble-t-il, évidemment, que des préoccupations de l'échelon au-dessus, voire du MEDEF. Ouais. Et donc, pour eux, il y a un souci, c'est qu'ils préféreraient voir l'État investir dans l'activité culturelle, en infrastructure, en subvention, plutôt que devoir financer un peu plus le différé d'indemnisation à hauteur de 80 millions d'euros. Donc, les choses en sont là. Et il reste encore au patronat, enfin au MEDEF, d'accepter cette proposition. Et donc le round de négociation continue, sachant qu'effectivement il y a les festivals d'été qui se profilent. Et donc nous, on voudrait dire à ce micro que il est vrai qu'en France, on a quand même pendant une période, on a trouvé des systèmes généreux pour indemniser la précarité. Donc notamment le régime des intérimaires, qui est un peu plus généreux que le régime général, et évidemment le régime des intermittents du spectacle. Le régime des intermittents du spectacle date de 1936.
Ah oui,
c'est peut-être le premier régime d'indemnisation donc des artistes, et que s'il est alors il est sans doute généreux, mais il permet de faire vivre effectivement tous les festivals en province en été et donc d'alimenter aussi le tourisme dans le pays, quoi. La France est réputée quand même pour être un pays culturel. Et du coup, c'est quand même une manne touristique. On pourrait penser au Festival d'Avignon, mais il n'y a pas que celui-là, importante. Donc il y a quand même des bénéfices induits de ce régime d'indemnisation. Et rappelons quand même que, donc, le régime des intermittents, il paraît généreux, mais c'est quand même un contrat d'usage. C'est-à-dire un contrat d'usage, vous êtes employé un jour, et puis c'est tout. Ou deux jours, ou c'est tout. C'est-à-dire, on n'a plus besoin de vous, vous partez.
En gros, c'est une grosse précarité, quand même, quelque part.
Tout à fait, absolument. C'est pas pour rien, d'ailleurs, que, et que, si le régime paraît, entre guillemets, généreux, donc, c'est-à-dire, on l'a dit, 507 heures sur 10 mois de cotisation, en quelque sorte, hein. Enfin, sur, 507 heures sur 10 mois, il faut avoir cotisé 507 heures sur 10 mois pour en bénéficier. S'il paraît généreux, il faut rappeler quand même que selon les statistiques, notamment de l'INSEE, la durée des contrats des intermittents du spectacle, la durée moyenne diminue. Et donc, du coup, les revenus moyens des intermittents du spectacle diminuent aussi. Et on parle juste des intermittents qui sont indemnisés, bien entendu.
Hein. Oui, bien sûr.
Et donc, depuis les années 80, ils diminuent significativement. On est passé à des durées de 4 jours, quelque chose comme ça, de durée moyenne de contrat. Donc, grosso modo, effectivement, il y a plus d'intermittents, c'est vrai. Mais enfin, il y a plus d'intermittents. La pression sociale, sur le marché du travail est plus forte. Et du coup, les intermittents travaillent moins. Mm-hmm. C'est ce qui se passe un peu dans d'autres professions. Il y a plus de rotation. Et ils sont moins payés. Donc, vous voyez, précarité, tu nous tiens, quoi.
Alors moi, merci Ludo. Moi, je suis juste en train de lire un document là. Apparemment, il y a un gars qui est proche du mouvement, qui est très actif dans le mouvement des intermittents, qui dit que c'est avant tout un accord politique. Et lui, il veut pas que l'État mette au pot parce qu'il a peur avec les alternances politiques de, évidemment, le prochain gouvernement, il peut changer la donne, etc. Et que c'est un petit peu la carotte qu'on donne aux intermittents pour qu'ils sortent des
pour qu'ils sortent des cultures
quoi et puis des manifs comme on a donné d'ailleurs aux jeunes des choses pour qu'ils arrêtent les nuits debout quoi tu vois c'est un peu ça l'idée quoi c'est
oui des... en fait le régime donc justement d'indemnisation du différé c'est quelques jours mais ça représente beaucoup quand même c'est effectivement à titre transitoire
c'est ça.
À titre voilà et alors bon c'est vrai que les chiffres bon c'est étonnant hein, mais bon dans le projet par exemple on va supprimer le cumul des congés payés, donc des congés payés spectacle, que vous pouvez toucher à la caisse, des congés payés spectacle si vous avez cotisé, et cumul d'indemnité. Ça représente un sacré paquet d'argent, quoi. Donc voilà. Donc, mais effectivement, on est dans une logique de rap tout, sur une longue durée, en fait, hein, c'est-à-dire jusqu'à la prochaine négociation où on leur demandera encore des efforts. Et on a envie de dire peut-être qu'une politique éclairée de croissance et de relance ferait finalement mieux que de constater les dégâts du chômage.
Tout à fait. On va s'écouter une petite chanson, ensuite on reprend la parole. Merci.
Nous les Français, c'est bien connu, détestons les condés. Ils puent les pieds, ils sont comme futurs polis. Y'a pas besoin d'un uniforme pour être flic, sous d'innocentes peaux de bique, y'a des poulets qui dorment.
Et oui, cette chanson que je dédie et que nous dédions tous ensemble dans cette équipe à tous les jeunes et moins jeunes qui participent donc à la révolte contre la loi El Khomri, donc aux Nuits Debout, et que je ne dédie pas aux forces de l'ordre qui sont dans l'agressivité extrême, on va dire. Voilà, j'ai du mal à le dire. Mais je suis un peu en colère, en fait, parce que je viens d'apprendre, il y a peu de temps, qu'effectivement, on condamne la gauche radicale pour les violences. Par contre, on ne condamne pas dans la presse la violence des policiers et des forces de l'ordre. Donc, deux poids, deux mesures. Merci à la justice. Voilà. Donc, contestée par une large part des forces syndicales et de la jeunesse, la loi El Khomri entend poursuivre et accélérer la déréglementation du marché du travail, flexibilité, travail de dimanche, horaires décalés, les nuits, au lieu d'avoir de 11 heures de repos entre chaque journée, on pourra les segmenter en plusieurs fois. etc., etc. Donc la flexibilité, la précarité, ça suffit. Il était temps que les jeunes soient dans la rue. Tant mieux, ils y sont encore. Mais pour combien de temps? Puisqu'apparemment, hier, dans la dernière manifestation et dans, le dernier, dans la dernière nuit debout, il y a eu un certain nombre de violences commises apparemment par, par certains et par d'autres, hein, donc la police et les manifestants. Je lis également dans la presse, pour ceux qui l'ont lu avec moi, qu'effectivement, ce n'est que des casseurs de la gauche radicale qui ont été extrêmement violents envers les policiers, les pauvres policiers.
Hein. Bah, il faut en parler aux manifestants, à l'étudiant de Rennes,
oui,
qui a perdu un œil. On n'avait pas eu ça depuis des années.
Exactement.
Par un tir de flashball, apparemment, qui est arrivé direct dans son, c'est petit quand même, un flashball.
Oui, oui, oui.
C'est arrivé direct dans son orbite oculaire, qui a été littéralement défoncé, y compris le,
oui, oui,
y compris
il a perdu son œil. Définitivement. Donc, voilà. Je l'ai eu nulle part. Je l'ai eu par le réseau, mais sinon, aucune voilà. information dans la presse. Voilà. Donc,
et d'autant qu'en fait, quand on parle de violence, enfin, les choses sont rodées, hein, de violence qui viendrait des manifestants. Il faut attendre quelques jours pour voir sur YouTube, puisque maintenant tout le monde peut filmer, hein, pour voir aussi les pratiques policières. On se souvient des pratiques policières au moment de la COP21,
absolument.
Où effectivement il avait été tout de suite dit que c'était des anarchistes qui avaient osé saccager le symbole de la place de la République, hein, donc des jeunes qui étaient morts sur la place de la République. Et puis on a eu la vidéo, et puis on a effectivement bien vu que les policiers avaient cerné la place. Tout de suite, qu'ils avaient donné un ordre de manifestation, c'était juste un tir de en l'air que personne n'a vu. Et puis ensuite, ils sont allés effectivement évacuer la place Manu Militari en provoquant, en cernant. Voilà. Bon. Et donc voilà. Donc peut-être que dans quelques jours, on aura effectivement des vidéos des vidéos sur les réseaux sociaux qui seront pas folichottes.
Tout à fait. Et moi, j'ai vu également une vidéo sur YouTube où Je reviens sur ce que je viens de dire. Claude, mon technicien, m'a envoyé une vidéo qu'il avait récupérée sur YouTube. C'est pas la même chose. Et j'ai pu voir qu'effectivement, dans le cas d'une manifestation des jeunes, de rassemblement d'une partie des jeunes à la place de la République, qui étaient réunis pacifiquement, il y avait même un jeune qui jetait des fleurs au CRS sans aucune bouteille dans la main, sans aucune arme dans la main. Et ils ont chargé comme des malades, et ils ont tapé dans tous les sens. Et bravo la police française. Donc maintenant, il y aurait aujourd'hui, on a appris ça dans la presse aussi, qu'il y aurait eu un policier extrêmement blessé, à la tête, alors qu'apparemment il aurait été tapé au niveau des jambes. Donc je ne sais pas trop l'information, mais il faut peut-être la vérifier.
Ouais, peut-être.
Mais en tout cas, généralement les CRS accompagnent les manifestations ou bloquent les rues ou l'accompagnent sur le côté, armés jusqu'aux dents avec les casques et les visières.
C'est au moment de l'évacuation.
Oui, oui, mais des fois, dès le départ, ils accompagnent un petit peu. Ouais. Et ils ont donc apparemment forcé ils ont voulu traverser la manifestation. Donc, évidemment, ça a fait boule de neige. Et donc, les violences des jeunes et des moins jeunes, des militants, bon, je sais qu'il y a toujours dans les manifestations.
Non, mais il faut quand même arrêter. Moi, je suis sûr, ça, je ne prends pas la défendre, quoi que ce soit. Mais seulement, voilà. Je veux dire, avec 3,5 millions de chômeurs à temps plein, 5 millions de chômeurs inscrits à Pôle emploi, dont le plus lourd tribut est porté par les jeunes. C'est les jeunes qui, quand ils arrivent, n'ont absolument aucun espoir dans notre société. Ben, il est guère étonnant qu'effectivement, à un moment donné, il y ait des débordements, des accès de colère. Effectivement, alors on a raconté que des banques ont été, c'est symbolique, des banques ont été, des agences de banques ont été fracassées, le PS, je crois que c'est à Nantes ou à Rennes, je sais plus exactement le siège du PS. Bon, on s'en prend à des symboles, oui, il y a des saccages, bon, qui restent effectivement symboliques à un moment donné. Et puis il y a aussi des débordements et des violences. Il n'y a pas de quoi. Moi, je suis un responsable des pouvoirs publics, ça m'étonnerait pas. Et effectivement, faire porter la responsabilité sur les jeunes, c'est toujours un peu facile, quoi.
Et puis d'autant qu'il faut savoir que la violence, la réelle violence, elle est quand même portée sur les salariés.
C'est une violence économique et sur les jeunes, surtout sur les jeunes qui arrivent sur le marché du travail.
Oui.
C'est une génération sacrifiée encore.
Les seuls qui en parlent, ce sont effectivement des militants de gauche dans leurs bouquins ou des sociologues, etc. Mais on en parle très très peu dans la presse, sauf dans le Monde diplomatique ou parfois dans le Canard ou parfois dans d'autres journaux, mais. La violence réelle, elle n'est pas là. La violence, c'est pas la manifestation avec 2-3 coups de poing qui se baladent de temps en temps. C'est la violence, c'est tous les jours,
quotidien, pour survivre.
Quotidienne. C'est la survie, c'est la précarité, la flexibilité de l'emploi. Et avec cette loi, eh ben, on arrivera effectivement à, c'est encore le MEDEF, les patrons qui vont s'en foutre plein les fouilles. Et ça, c'est extrêmement révoltant. Donc la violence, elle est de leur côté, pas de la nôtre.
Ouais, enfin,
donc, je tiens à le dire quand même, parce que bon, c'est normal. Nous, on ne fait que répondre à une violence qu'on a subie, quoi, quelque part. Donc il est quand même important de pouvoir le dire. Et j'en profite à ce micro. Je tiens à rappeler quand même que notre radio, Fréquence Paris Pluriel, qui se trouve au 1 rue de la Solidarité dans le 19e, accueille donc tous les militants de la Nuit Debout et autres mouvances pour participer le mercredi soir à partir de 18h jusqu'à 22h à effectivement une sorte de démission sur effectivement tout ce qui se passe dans la rue aujourd'hui pour dire un peu tout ce ras-le-bol qu'on nous, voilà, que nous avons. J'ai du mal à finir. En tout cas, cette émission se termine. Je vous remercie de l'avoir suivi. Merci Ludo, merci à Claude de la Technique. Je vous dis donc à dans un mois et bisous aux filles et poignées aux garçons. Ciao.
Bonsoir.
Don't you know?